Bonsoir Gilles Kepel.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. J'ai une petite pensée compatissante pour tous ceux qui sont debout, mais ça prouve donc l'attrait qu'exerce à la fois le sujet et l'auteur. Voilà, donc Gilles Kepel.
Et l'introducteur.
Je crois surtout l'auteur et une actualité très forte.
Hélas.
Vous venez donc nous parler d'Holocauste, votre dernier livre. Vous étiez d'ailleurs en train de parler de votre livre, de votre dernier livre, Prophète en son pays, pour lequel vous étiez d'ailleurs venu l'année dernière. Vous étiez en train de le promouvoir à droite et à gauche. Et puis lorsque vous avez été saisi, comme tout le monde, par ce qui s'est passé le 7 octobre donc en Israël, avec l'assaut des milices du Hamas sur le sud d'Israël et les massacres qui se sont produits. Et puis évidemment ensuite, dès le 27 octobre, donc trois semaines plus tard, le premier assaut de l'armée israélienne sur l'enclave de Gaza, représailles donc violentes qui se poursuivent toujours aujourd'hui. Nous en sommes à plusieurs centaines de jours de représailles, donc, et une situation qui est toujours aussi préoccupante, avec un bilan de civils tués à Gaza très très élevé. Alors vous employez donc Gilles Kepel, je rappelle évidemment, on vous connaît ici, hein, vous êtes donc politiste, arabisant, professeur des universités. Vous avez consacré de très nombreux livres depuis 35 à 40 ans donc au Moyen-Orient, donc à la fois, je n'insiste pas trop, mais c'est simplement pour parler de l'expérience qui est la vôtre donc sur ces sujets. Vous avez été évidemment très 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 médiatisé au moment des attentats de Paris, puisque vous les avez abondamment commentés.
J'ai surtout été condamné à mort, ce que j'aurais.
Et d'ailleurs, vous avez été vous-même pris à partie à ce moment-là. Ensuite, vous êtes revenu plus largement sur le Moyen-Orient. Vous avez donc publié notamment un gros livre sur les crises au Moyen-Orient, donc des grandes synthèses qui ont ce grand intérêt de lier entre eux les événements de cette région qui touche le monde arabe au sens large, qui touche Israël, la Palestine, qui touche avec une sorte de vision globale qui permet donc à nous autres de se faire une idée à la fois large, compacte et en même temps précise des enjeux qui touchent cette région qui est fondamentalement importante, non seulement pour l'Afrique du Nord et le Levant, mais aussi pour l'Europe. Et on le voit dans ce livre pour le monde entier. Alors d'abord peut-être un commentaire, Gilles Kepel, sur le titre que vous avez voulu donc pour ce livre, Holocauste, qui a été rédigé à chaud, après le 7 octobre, donc il a été achevé au début de cette année. Alors Holocauste, c'est un terme qui est assez connoté, qui est un terme biblique, un terme du vocabulaire sacré, qui désigne le sacrifice. Alors pourquoi avez-vous voulu utiliser ce mot au pluriel pour désigner ce double épisode dramatique?
Et beaucoup plus, en fait, que le double. Mais je vais y revenir. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous d'être venus si nombreux. Désolé pour celles et ceux qui sont debout. On va essayer de ne pas être trop long pour vous n'ayez pas mal aux pieds. Mais vous pouvez vous asseoir par terre ou même sur l'estrade, en ce qui me concerne. Et on va peut-être pas transformer en concert de rock, mais bon, en tout cas, merci infiniment d'être venus pour cette discussion. Et je suis gré à Christophe Lucet d'avoir lu ce livre et d'accepter d'en débattre avec moi devant vous. En effet, je ne pensais pas écrire deux livres à la suite comme ça, je ne l'ai jamais fait. Et du reste, quand j'étais un vrai universitaire, j'aurais considéré ça comme du travail bâclé. Mais en fait, non, parce que, comme vous l'avez rappelé, au moment où j'étais en train de promouvoir Prophète en son pays, j'étais devenu déjà dans cette même salle, avec grand plaisir, est arrivé le 7 octobre. Et j'ai été très sollicité par un peu tout le monde pour le mettre en perspective, justement, pour l'expliquer. Alors c'était un objet immédiat, c'était à chaud, mais d'une certaine manière, avec mes malheureusement 40, ça je suis pas plus un perdreau de l'année, avec mes 40 années d'expérience de cette région, depuis le Moyen-Orient jusqu'au ce que j'avais appelé en 1987 les banlieues de l'islam française, il m'a semblé que je pouvais essayer de donner une signification à ce qui se déroulait sous nos yeux, qui n'était pas seulement l'actualité sur laquelle on avait le nez dans l'écran je n'ose plus dire de la télévision car on la regarde moins, mais de l'ordinateur ou du téléphone portable, de façon à favoriser l'intelligence ou l'intellection, si vous voulez, qui est, me semblait être mon rôle de professeur. Et comme je suis chassé de l'université, mis à la retraite le 1er septembre, et comme c'est le jour de la Saint-Gilles, j'y vois là un signe que je ne sais interpréter, mais ce qui me renforce dans ma autodéfinition de providentialiste athée. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'avais là une vocation, si vous voulez, surtout. Comme je me mets dans la position de la prophétie, il fallait que je l'exerce, sinon je ne l'avais pas pris au sérieux chez Molla. Et donc, j'ai essayé donc de comprendre ces phénomènes. Par exemple, je vais revenir sur le Est Holocauste. Hein, par exemple, le 7 octobre. Et en réfléchissant sur ce qu'était le 7 octobre, qui a été perçu par ses victimes comme un pogrom qui était le premier pogrom de cette ampleur depuis la fin du nazisme. Et cela dans l'État même qui avait été créé en 1947 par l'ONU pour les Juifs, de manière à ce qu'ils ne subissent plus jamais ça, d'une certaine manière. Donc il y avait eu un scandale, enfin quelque chose, une catastrophe, hein, une rupture très profonde, à la fois psychique, sémantique, politique, existentielle. Mais ça, c'était ce à quoi on pouvait, pour certains d'entre nous, s'identifier, parce que c'était, ça nous rappelait aussi le massacre du Bataclan, puisqu'il y avait eu également des jeunes qui étaient à un concert de ce qu'on appelle la tribu de Nova, qui avaient été les victimes dans des circonstances horribles, tout ça. Mais j'ai d'abord essayé, du fait de ce que j'avais appris pendant 40 ans en étudiant le monde arabe et musulman, de me mettre dans la tête des assaillants. C'est-à-dire, pourquoi et comment avait-il voulu faire ça? Qu'est-ce qui avait permis de le faire? Et je me suis rendu compte que le 7 octobre faisait écho au 11 septembre. On y reviendra tout à l'heure dessous. Le 11 septembre avait été nommé par Ben Laden et ses acolytes en arabe El Razwatan El Mubarakatan, ce qui veut dire la double radia bénie, double parce que c'est New York et Washington. Et là, c'était également une radia. Qu'est-ce que c'est qu'une radia? C'est le mot français, est un décalque de l'arabe originel, razwa, qui veut dire une action extrêmement rapide sur une oasis voisine, quand elle est bédouin, où on coupe les arbres, on vole les moutons, on prend les femmes pour le harem, on tue les hommes et on prend les enfants en otage, en esclavage. Et il se trouve que le prophète, et c'est raconté très précisément dans ce qu'on appelle la Sira Nabawiya, dans l'histoire du prophète Muhammad, en l'an 628 de l'Égypte, a attaqué une oasis juive qui s'appelait Khaybar, qui faisait partie de la confédération de Médine. L'assaut et les circonstances de l'assaut ont été décrits avec des détails d'une extrême cruauté, pour épouvanter tous ceux qui refusaient la révélation telle qu'elle était venue au prophète, la révélation de l'islam. Des détails très précis sont mis sur les femmes qui ont été mises dans le harem du prophète, ses compagnons, les enfants emmenés en esclavage, etc., mis sur les chameaux, et faisaient d'une certaine manière penser aux scènes qu'on avait vues, sorties des vidéos de propagande ou autres, c'est-à-dire les malheureuses qui étaient, on a vu toutes ces scènes, tirées, mises, jetées sur les pick-up à moitié dénudées ou enfourchées sur les motocyclettes. L'ampleur du massacre aussi, qui mêlait d'une certaine façon mystique et politique. C'est-à-dire que l'intensité de la cruauté était facilitée par le fait que ceux qui la mettaient en œuvre étaient convaincus d'agir selon des préceptes divins, d'une certaine façon, qui n'était pas du tout mise à distance. Parce que, bien sûr, dans tous les textes bibliques, coraniques, évangéliques moins, mais enfin, on a des scènes de cruauté qui sont décrites, le travail des prédicateurs, quand ils sont modernes en tout cas, c'est de mettre ça à distance, de ne pas considérer que c'est exactement ce qu'il faut faire dans la réalité. Le problème, dans un certain nombre de cas, c'est que des prédicateurs djihadistes ou islamistes radicaux ou littéralistes ne font pas du tout de mise à distance historique des textes sacrés. C'est donc ça qui va être l'un des carburants de cette qui vont expliquer la déshumanisation des victimes, à quoi s'ajoute également que, on l'entend dans les caméras GoPro qui ont été vidées de leur contenu et écoutées par les Israéliens qui trouvaient sur les cadavres de gens de Daesh et autres, pardon, de Hamas et autres qui avaient été tués, et les caméras de surveillance qui crient en arabe « On est chez nous, nous sommes dans notre territoire ». Donc c'est en même temps une dimension nationaliste, parce que la plupart d'entre eux sont des petits-enfants de ceux qui ont été expulsés du territoire qui est devenu Israël et envoyés dans les camps de réfugiés à Gaza, mais aussi ailleurs, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie, en Jordanie, etc. Donc il y a cette dimension-là. Et ce qui m'a frappé, c'est justement la dimension de victime quasiment sacrificielle des malheureux qui ont été égorgés, violés, mutilés. On a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Il y a un livre très détaillé qui sort ces jours-ci, j'ai vu sur le 7 octobre. Et on ne sait pas encore tout. Bon, c'est très controversé parce qu'évidemment, chacun essaye de tirer la couverture à soi dans cette affaire. Mais on va découvrir toutes nos choses. Et ensuite, on a une répression extrêmement violente qui va causer une véritable hécatombe cette fois-ci dans la bande de Gaza en rétorsion au 7 octobre avec les bombardements de l'armée israélienne sur des populations civiles et aussi militaires. Le Hamas ne dit qu'il n'y avait que des civils qui étaient tués. C'est faux, évidemment. Il y avait aussi les brigades, les combattants des brigades Azedine al-Qassam, mais qui sont difficiles à distinguer à l'œil nu, car ils n'ont pas d'uniforme, d'une certaine façon. Mais c'était les combattants. Et donc, plusieurs dizaines de milliers, on ne sait pas au juste, on le saura, on dit plus de 30 000 ou moins de 30 000, c'est très difficile d'avoir des chiffres fiables.
On s'appuie d'ailleurs officiellement sur des chiffres de ce qu'on appelle le ministère de la Santé du Hamas.
Oui, enfin, donc, c'est un peu un oxymore, le ministère de la Santé du Hamas, c'est quand même, ils sont plutôt Hamas que le ministère de la Santé, disons. Et donc, mais ça n'empêche pas qu'il y a des victimes civiles en très grand nombre, et à tel point que cela a d'une certaine manière occulté dans un grand nombre de pays le sentiment de solidarité et de sympathie avec les victimes israéliennes de la razzia pogromiste du 7 octobre, conduisant à la relativiser, si vous voulez. Et donc moi, je ne suis pas en train d'essayer de distribuer des bons points d'un côté ou de l'autre, des mauvais points, j'essaye de comprendre le phénomène. Et pourquoi est-ce que j'ai inscrit un S à Holocauste ? Ça n'est pas pour dire tout est pareil, c'est pour marquer que d'abord le terme Holocauste au pluriel existe, puisque moi qui ai fait autrefois très très longtemps du latin et du grec, les Holocaustes dans les versions latines c'était les victimes. Je vois une dame qui a fait aussi du latin et du grec qui a opine, donc elle doit avoir 17 ans, 18 ans, je pense. Enfin, comme c'est dans vous êtes dans l'obscurité, je ne me rends pas compte exactement. Et donc, on disait le Zeus était satisfait de l'Holocauste, des Holocaustes, c'est-à-dire les bœufs, les chèvres, les boucs qui étaient sacrifiés, qui succédaient à des sacrifices humains dans les temps plus reculés. Et donc, ce sont tous ces sacrifices humains que j'ai voulu essayer de mettre en perspective. Et non pas en relativisant l'un par rapport à l'autre, mais en indiquant que d'une certaine manière, ce qui se produisait remettait complètement en jeu les fondements moraux de l'ordre du monde tels qu'ils avaient été constitués après 1945. Après 1945, les Soviétiques d'un côté, les Américains, les Français, les Anglais et Français dans l'ordre de l'autre, malgré leurs différences idéologiques, communistes ou libéraux, s'étaient mis en principe d'accord sur quelque chose, peut-être formellement, qui était plus jamais ça. Et c'est ce qui avait fait que l'État d'Israël avait été créé par l'ONU pour fournir un havre ou un refuge aux Juifs pour plus jamais ça, avec du reste, on l'a beaucoup oublié au départ, un soutien très fort des Soviétiques. Les troupes juives remportent la guerre en 48 grâce aux tanks tchécoslovaques envoyés par Staline, qui d'ailleurs pensait que dans les kibbutz il y avait un écho des kolkhozes soviétiques, alors que les Anglais s'appuyaient sur les élites arabes qu'ils avaient formées pendant la colonisation. Ce n'est qu'en 1951 que l'affaire se retourne et que l'Union soviétique va prendre fait des cousins. Et donc, cet ordre du monde qui opposait l'Est et l'Ouest était basé sur ses fondements va se transformer avec ce qui se passe le 7 octobre, et notamment lorsque l'Afrique du Sud, suivie par le Nicaragua, sandiniste, vont à la Cour internationale de justice et disent « Nous accusons Israël de génocide ».
Alors ça c'est un chapitre assez nouveau dans votre livre, cette vous analysez d'assez près donc cette plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale de La Haye. Avant de développer ce point, je voulais revenir juste un petit peu en arrière sur l'équivalence que vous avez faite entre le 11 septembre et le 7 octobre, c'est-à-dire que le 11 donc à 23 ans 24 ans d'intervalle, donc on a deux massacres de masse, on a d'un côté donc Al-Qaïda qui a perpétré sur les instances de Ben Laden et de son équipe, donc ces attentats aériens, donc sur New York et sur Washington. Et ensuite, 24 ans plus tard, donc d'autres islamistes, mais qui ne sont pas d'Al-Qaïda, qui sont en fait des nationalistes palestiniens islamistes, qui vont s'en prendre cette fois non pas au grand Satan américain, mais à l'autre Satan qui est ce Satan israélien, cet État qui a prospéré sur de manière neuve sur une Palestine historique qui était en partie occupée. Est-ce que vous pouvez tracer l'équivalence de façon un peu plus précise ? Pourquoi je dirais, on ne peut pas superposer évidemment exactement les deux choses, les deux événements, mais par contre, vous les associez d'assez près. Est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer un petit peu l'articulation que vous faites ?
Avec plaisir. Ils s'inscrivent dans une sorte d'articulation, comme vous l'avez dit, et de consécution. Mais pas seulement. Le 7 octobre, d'ores et déjà, 2023, eh bien, ça résonne, avec un E accent aigu, avec le 6 octobre 73. C'est-à-dire 50 ans et un jour avant, c'est le début de la guerre dite du Yom Kippour ou du Ramadan. Et c'est l'offensive arabe menée par Sadat et Assad. L'un franchit le canal de Suez, l'autre récupère le Golan. C'est-à-dire les territoires occupés pendant la guerre des six jours de 67 en Israël. C'est la revanche arabe, d'une certaine manière, qui sonne. Et donc, pour Yahya Sinwar, qui lance cette offensive, c'est aussi... Je pense symboliquement, même si la plupart des Palestiniens sont beaucoup trop jeunes pour avoir connu octobre 73, mais Sinwar a passé 22 ans dans les geôles israéliennes, il a eu le temps de méditer, d'apprendre l'histoire.
Alors Sinwar, c'est le chef du
Hamas, oui, il est connu maintenant.
Il est toujours terré dans les
sous-marins. Probablement, oui,
en tout cas, autant qu'on le sache. Hein.
De Rafah, et il est le motif ou le prétexte, comme vous voulez, pour Netanyahou qui dit nous n'aurons pas terminé notre offensive tant que nous n'aurons pas conquis Rafah, c'est-à-dire déterré Sinwar, qui, dans la logique de Netanyahou pour la population israélienne, est une manière, d'une certaine façon, de cautériser la plaie ouverte le 7 octobre. C'est une plaie qui est toujours béante et qui, psychologiquement, dans la population israélienne, apparaît comme un traumatisme extrêmement profond, d'autant plus que Netanyahou emporte une large responsabilité, puisque... Le renseignement israélien avait été au courant de cela, mais Netanyahou n'y croyait pas. Il ne voulait pas y croire parce que il avait, d'accord avec le Qatar, il faisait financer le Hamas pour le transformer Gaza en une sorte de Bantoustan, où finalement il y aurait de quoi s'enrichir avec des tunnels dont il pensait qu'il passait surtout de la contrebande. Donc on a découvert qu'il y avait de véritables autoroutes pour faire passer tous les armements possibles et imaginables. Comme c'était sous terre, les drones ne voyaient rien. Et donc, il y a cette dimension, si vous voulez, psychologique très forte, de psychologie politique de Netanyahou. Mais pourquoi le rapport avec le octobre 73, il y a cette espèce de parallélisme, dans les deux cas, une revanche, avec le 11 septembre, parce qu'on ne s'en souvient pas toujours aujourd'hui, mais le 11 septembre s'inscrit dans la seconde intifada, c'est-à-dire le deuxième soulèvement israélien qui commence en 2000 et qui...
Palestinien.
Excusez-moi, oui, palestinien, vous avez raison, qui met l'attentat suicide, tel que l'appellent ses adversaires, ou l'opération martyr, comme l'appellent ceux qui le mettent en œuvre, au cœur de la nouvelle stratégie de l'islamisme politique radical. Et ce sont les attentats des gens qui se font exploser dans les pizzerias, dans le café Moments, juste devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, etc. Et que Ben Laden va projeter à New York et à Washington. Si vous voulez, va dépayser et va projeter à New York et Washington. Et du reste, le 7 octobre, Il y a beaucoup de coïncidences, cette histoire. 2001, donc peu après le 11 septembre, pour la première fois, alors que personne n'avait revendiqué officiellement, dans une grotte en Afghanistan, vous vous souvenez peut-être de cette image, filmée exprès pour Al Jazeera, mise en scène pour Al Jazeera, on a Ben Laden et Zawahiri dans la grotte,
c'est un troisième personnage. Qui sont accroupis dans la grotte, c'est ça, hein.
Voilà, avec une montre, au poignet droit, ça a été beaucoup interprété par toutes sortes de gens. Et Ben Laden dit « Aqsamu billah, il a dit arfa samawat billah ahmida » etc. Je voulais faire la suite. Donc ça veut dire « J'en atteste par Dieu qui a créé les dieux sans colonne » que jamais l'Amérique ne connaîtra la paix tant que les troupes de l'infidélité seront dans les terres saintes, au pluriel, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, à l'époque pour lui qui est saoudien, et la Palestine. Et donc, d'une certaine façon, le 7 octobre est une réponse, c'est une continuité. Les uns et les autres, les deux 7 octobre se rappellent, se répondent. Il se trouve aussi que le 7 octobre, c'est un peu comme pour la guerre de 73, c'est un jour férié, c'est le début du Shabbat en Israël, c'est aussi le début d'une fête dont je vous avoue que j'ignorais l'existence, qui s'appelle Simchat Torah, donc il y avait une vigilance très affaiblie de l'armée, et qui plus est, le gouvernement de Bibi Netanyahou avait retiré l'armée de la frontière avec Gaza. Moi, j'ai passé cette frontière de nombreuses fois quand j'allais pour mes enquêtes rencontrer les dirigeants du Hamas à Gaza, mais d'un Hamas qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, qui était beaucoup plus dans l'appareil des frères musulmans. C'était d'avant que l'Iran ne les récupérait, notamment à travers...
Mais après les élections de 2006, qu'ils avaient gagnées...
Qui confirmaient Gaza était leur territoire. Avec, d'ailleurs, l'assentiment de Netanyahou. Vous savez, François Mauriac, qui est connu dans cette région, comme vous le savez, avait eu cette formule ironique, mais profonde sans doute, après la Seconde Guerre mondiale, « J'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux ». Vous vous souvenez de ça ?
Et donc Netanyahou aime tellement la Palestine qu'il en voudrait deux.
Il en voulait deux, et oui, parce que c'était la meilleure manière de faire capoter les accords d'Oslo. D'un côté... la Cisjordanie avec Mahmoud Abbas, dont il se félicitait chaque jour davantage de la sénilité et de la corruption pour pouvoir dire aux Américains « qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui ?» Et de l'autre côté, Gaza, beaucoup plus dynamique, mais attention, ce sont des terroristes, je ne peux rien faire avec eux. Donc ça lui évitait de mettre en œuvre un processus de paix dont il ne voulait pas tellement. Et c'est lui, du reste, qui fait libérer en 2011 Yahya Sinwar de prison. Et avec 1026 autres prisonniers, en échange du caporal franco-israélien Gilad Shalit, qui avait été enlevé 5 ans auparavant par le Hamas. Pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose d'aussi gigantesque? 1026 personnes contre un soldat, c'est immense. Alors, certains ont dit, ah, c'est pour montrer comme il méprisait les Palestiniens, et un Israélien valait 1027, c'est 1026 plus 6 noirs surtout. Mais c'était pas du tout ça, je crois que c'était pas là-dedans. Son idée, c'était de reconnaître le Hamas comme une force. Ils ont aussi libéré des prisonniers du Fatah. Mais c'était, d'une certaine manière, identifier clairement le Hamas comme un interlocuteur. Et pensant, sans doute, envoyer la peste de l'autre côté pour aggraver les conflits interpalestiniens. Ça s'est retourné, bien sûr, contre lui ultérieurement. Et ça, c'est une histoire tragique. Enfin, c'est même du point de vue de Netanyahou, dont je ne sais pas ce qu'il va devenir, parce qu'il a déjà des chefs d'inculpation avant même le défaut de vigilance, qui va quand même... Vous avez vu qu'aujourd'hui ou hier...
Aujourd'hui,
le patron du renseignement...
a démissionné.
A démissionné, en prenant sur lui la responsabilité. Autant qu'on le sache, hein, bon, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans le renseignement quand on n'est pas à l'intérieur et on ne parle pas généralement. Donc ceux qui parlent...
Premier commentaire d'ailleurs en Israël de la presse, si le chef du renseignement démissionne, que vont faire les autres? Entre les autres, c'est évidemment les généraux et puis les
responsables politiques. Oui,
et puis bien sûr
parce le chef que, mais c'est Netanyahou, parce que le renseignement avait les informations. Ils ont même transmis un rapport qui s'appelait « Trompette de Jéricho ». ironiquement, vous savez, trompette de Jéricho, donc c'est quand les Hébreux, enfin, c'est une histoire mythique, enfin biblique, qui n'est pas attestée par les historiens en tout cas, donc font sonner les trompettes, c'est en réalité c'est ce qu'on appelle le chauffard, c'est-à-dire ce sont des cornes de bélier évidées, c'est pas la musique la plus mélodieuse qu'on puisse entendre, et donc les murs tombent, et les Hébreux massacrèrent tous les Cananéens. Donc la Bible, de ce point de vue-là, vous savez, il y avait cette fameuse, dans le verbatim d'Athalie, il raconte que un jour Mitterrand lui dit « Alors Athalie, votre Moïse, c'était un massacreur. » « Oh, lui dit Athalie, je vais vous expliquer, monsieur le Président, c'est plus compliqué. Bon. » Et effectivement, tout le monde est massacré. Ce qui fait penser, d'une certaine façon, à aussi un élément de mystique et politique dans le fonctionnement de Netanyahou. On massacre tout le monde. Mais pour revenir à la question que vous me posez, car je l'ai gardé en tête, ce qui se passe le 7 octobre et s'inscrit dans quelque chose qui est à long terme. Netanyahou avait refusé les rapports parce que, mettez-vous à sa place, il a été 15 ans Premier ministre. Et le général Machin, lui, il s'est même jamais arrivé jusqu'à son niveau, apporte à son cabinet un rapport disant « Voilà, Hamas va attaquer ». Sa réponse était « Non, ils ne vont pas attaquer. J'en ai fait un bon tout ce temps. Les Qataris apportent 30 à 40 millions de dollars par mois dans un avion de Qatar Airways qui va à l'aéroport Ben Gurion. L'argent est transporté par des valises, dans des valises par le Shin Bet ou le Mossad, jusqu'à la frontière d'Erez, la barrière que Hamas a traversée si facilement. Là, les services secrets égyptiens s'en emparent, l'amènent au centre névralgique du Hamas qui, bien sûr, dit qu'il paye les infirmiers, les professeurs, les médecins. Ils le font certainement, mais ils prennent aussi, j'imagine, des frais de dossier dont la proportion n'est pas tout à fait connue autour de l'instant, en tout cas de moi. Et Netanyahou était convaincu, si j'ose dire, dans son esprit, que Sinoir aboyait mais ne mordrait pas. Et moi, j'ai lu, j'ai transcrit dans ce livre un certain nombre de... Parce que je n'étais pas très au fait de l'affaire de Sinoir, je dois dire. J'ai lu et transcrit, écouté plutôt et transcrit, ses interviews en arabe à Al Jazeera, à la chaîne Mayadine du Hezbollah, à Al-Aqsa Télévision, la sienne. Et il dit absolument tout ce qu'il va faire. Jusque là, on va vous couper en morceaux et vos crânes serviront à monter sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Enfin, les choses sont très explicites, mais Netanyahou disait oh, c'est pour la consommation interne, c'est pour les tenir.
Dites-moi, Gilles Kepel, que Sinoir dise ce qu'il fera, ça, c'est une constante quand même que vous avez constatée tout au long de vos recherches. C'est-à-dire que souvent, les leaders assez souvent, islamistes, oui. Assez souvent, donc et vous avez suffisamment reproché d'ailleurs à d'autres chercheurs de ne pas aller au texte. C'est-à-dire que finalement, quand on décortique la presse et les communiqués, donc la littérature islamiste, on découvre souvent. C'est souvent assez prémonitoire de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer.
Oui, d'autant plus à l'époque, c'était la presse qui décortiquait la presse et la télévision. Ça, c'était quand nous étions jeunes. Mais aujourd'hui, il y a la barrière entre ce qui est contrôlé et ce qui ne l'est plus, s'est estompée puisque tout passe sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, par exemple, à l'époque d'Al-Qaïda, Ben Laden avait besoin d'Al Jazeera. Donc, même la déclaration du 7 octobre dans la grotte que j'ai évoquée tout à l'heure, elle était quand même formatée pour que le Qatar puisse la diffuser sans se faire taper dessus, évidemment, par les Américains. À partir du moment où les réseaux sociaux arrivent et l'ère de YouTube, c'est ce qui va la transition de Daesh à Al-Qaïda. Avec Daesh, vous filmez vous-même le malheureux que vous avez pris en otage et que vous égorgez et vous le diffusez en temps réel, sans qu'il y ait une instance étatique qui s'en mêle. Donc, il n'y a plus aucune, aucun contrôle, aucune. C'est totalement une violence qui est totalement désinhibée et qui, quand on écoute ces cassettes, celles de Daesh et celles des autres ou celles du djihad islamique ou de Hamas, indique exactement ce qu'il en est et surtout permet de se représenter ce que les individus ont dans la tête. Alors, tant que l'assaut n'est pas donné, on peut considérer que ça reste des paroles. Mais le 7 octobre, ça se transforme en action. Et Netanyahou dit, écoutez, c'est moi qui suis Premier ministre, qui suis ici assis dans la chaise Premier ministre, c'est que je sais ce que je fais. Sinon, c'est vous qui seriez à ma place. Donc, ce que vous dites n'a aucune valeur. Et ça, c'est quelque chose que lui-même va devoir payer. Vous savez, après 73, le Parti travailliste qui tenait complètement Israël, du fait qu'il a subi l'effet de surprise, a été laminé. Aujourd'hui, ça n'est plus grand-chose. C'est que
Golda Meir, qui était première ministre, a dû quitter son poste, et je dirais pour beaucoup moins que ça, d'une certaine façon, puisque oui. La guerre du Kippour, la guerre de 73, c'est une guerre militaire classique. Hein,
oui, qui dure 19 jours.
Que d'ailleurs, Israël va remporter. Donc,
qui va remporter militairement, mais perdre politiquement, puisque c'est la guerre de l'embargo sur le pétrole.
Voilà.
Et le roi Faisal d'Arabie Saoudite utilise le pétrole comme une arme politique. Et Israël, se trouvant sur la route de Suez au Caire, au kilomètre 109, Caire, ville ouverte, et un coup de fil des États-Unis qui siffle l'arrêt immédiat des hostilités, puisque les prix du pétrole s'envolent. Bon, pour le plus grand profit des pétroliers texans aussi, qui ont vu leur profit s'améliorer. Mais pour nous, ça a été le début d'un cataclysme qui a été la désindustrialisation, la délocalisation de tout... en Chine, la désertification, le chômage de masse, etc. Et un type de société dont nous sommes à peine en train de sortir aujourd'hui.
Alors, vous avez parlé de Yahya Sinwar et de Ben Laden. Je rappelle que Ben Laden a été traqué, comme Yahya Sinwar est traqué actuellement par les Israéliens, et qu'il aura fallu une bonne dizaine d'années pour que Ben Laden soit donc logé, entre guillemets, au Pakistan, et donc tué par un commando américain.
Le Navy Seals, oui.
On pourrait aussi citer d'autres cas de leaders, comme par exemple...
Zawahiri aussi.
Zawahiri,
tué au...
Et donc Sinwar, qui lui bénéficie, n'est pas dans les grottes de Bora Bora, mais il est dans les souterrains de Gaza. Je rappelle que les souterrains de Gaza, ils existent depuis Alexandre le Grand, quand même. Hein. On dit qu'Alexandre le Grand, lorsqu'il est allé en Égypte, donc a dû forcer des tunnels de Gaza. Il y avait déjà des trous sous la bande de Gaza. Enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un véritable métro, hein, un tunnel.
Ce qu'on voit, quand je n'y suis pas allé,
mais il y a un couloir, donc il y a toutes les chances d'être assez longtemps hors de portée.
Vous savez, tout dépend. Je crois que la situation est absolument catastrophique dans la bande de Gaza aujourd'hui. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pardon. Et on est dans une situation de quasi-famine. Et la famine, évidemment, c'est quelque chose qui incite, pour nourrir soi-même ou ses enfants, à dire ce qu'on sait à celui qui va vous donner quelque chose à manger. Donc les Israéliens disposent d'informateurs de plus en plus nombreux, et c'est ainsi que probablement qu'ils ont... liquider les fils d'un des dirigeants du Hamas qui est à Qatar aujourd'hui, Ismaël Haniyeh, récemment. Alors, l'offensive sur Rafah, elle est promise régulièrement. Hein, Netanyahou l'a encore promise juste avant la Pâque juive, puisque aujourd'hui nous sommes c'est mardi aujourd'hui, c'est ça ? Donc le deuxième jour de la Pâque juive. Et ce qui explique aussi pourquoi les activités sont relativement réduites. Netanyahou ayant souhaité que c'est l'épreuve qui a été subie par les Israéliens depuis le 7 octobre, il y ait deux jours de recueillement, si vous voulez. Mais tout indique qu'après, l'offensive va recommencer. Et lui pense qu'il faut traquer Sinwar dans Gaza. Le problème, c'est qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est là, et lors de l'attaque d'Israël par l'Iran, il y a une dizaine de jours, alors même que le matin, Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak et mille autres avaient mis en garde Netanyahou, des escalades, arrêté les bombardements sur les civils, etc. Le soir, lors de l'attaque iranienne sur Israël, l'armée de l'air américaine, l'armée de l'air britannique, la nôtre dans une moindre mesure, et même les Jordaniens, ont contribué à abattre les 300 et quelques drones et missiles iraniens. Mais ensuite, Biden a dit « Attention, pas d'escalade ». Donc, Israël a fait répliquer en Iran un petit peu en détruisant un radar lié à la protection des sites nucléaires, comme si finalement le nucléaire, c'est ce qu'il y a derrière. Juste, c'est là, on est juste sur le bord du nucléaire avec une puissance qui a l'arme nucléaire, l'Iran. Il y en a une autre dans la région qui est le Pakistan et une qui est au seuil. Je dis Israël, pardon, je dis l'Iran, non. Une puissance qui a l'arme nucléaire, Israël, pardon, excusez-moi. Une autre qui l'a également, le Pakistan, et l'Iran qui est dans ce qu'on appelle une puissance du seuil, qui n'a pas encore la capacité d'avoir un engin nucléaire et surtout de le mettre sur un vecteur. Et donc on est dans un créneau particulièrement complexe.
Alors précisément, vous avez beaucoup dans vos précédents livres parlé des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, je rappelle que c'est ces accords qu'Israël a passés sous auspice des Américains, avec certains pays arabes pour préparer finalement l'ancrage d'Israël dans son environnement géopolitique, en confortant sa situation, puisque la paix est faite avec l'Égypte, la paix est faite avec la Jordanie, mais évidemment, c'est pas suffisant. Et donc, on pouvait penser que cette attaque du 7 octobre était destinée à ruiner ces accords d'Abraham. C'est-à-dire à couper Israël, qui ferait bien sûr des représailles épouvantables, les couper finalement des pays arabes qui souhaitaient s'entendre avec Israël pour mener une opération de pacification générale. Alors est-ce que vous pensez que le 7 octobre et ses suites actuellement sont de nature à couper à toute réalité ces accords d'Abraham, ou est-ce qu'au contraire, après, à l'occasion de cette attaque iranienne, où on a vu finalement la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Jordanie, comme vous l'avez dit, aider Israël à se défendre, est-ce que Israël, voyant ça, a pas intérêt à mettre le holà à son offensive sur Gaza pour sauver les accords d'Abraham et donc finalement arrêter, conforter sa position en profitant de ce petit virage qui lui est plutôt favorable.
Oui, aujourd'hui, oui, mais dans combien de temps, je ne sais pas. Ce qui est frappant, c'est que bien sûr, les États arabes ont protesté contre l'hécatombe à Gaza. Il y a eu une réunion de la Ligue arabe et du Conseil de la coopération islamique où tous les chefs d'État ont protesté. Dans la photo de famille, celui qui se distinguait le plus au premier rang, c'était Bachar el-Assad, parce qu'il mesurait 1m89, donc celui qu'on voyait le mieux. Et en Syrie, c'est minimum 350 000 morts, 8 millions de déplacés externes et 5 millions de déplacés internes, qui n'ont pas suscité les mêmes...
Donc il est très ému par la répression à Gaza. Hein,
oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. De même au Soudan, où il y a eu, je ne sais pas combien, 600 000 morts, enfin, génocidés, semble-t-il. Enfin, l'ancien dictateur Béchir, incriminé comme tel par la Cour internationale de justice, d'ailleurs, il s'était réfugié, il était passé à ce moment-là en Afrique du Sud, qui n'a pas du tout livré à la Cour pénale internationale, plus exactement. Et ça, c'est beaucoup de paroles. Dans les faits, aucun des États signataires des accords d'Abraham ne les a déchirés.
Maroc, ni le Bahreïn,
ni les Émirats. Ni le Soudan, mais qui compte moins. Et même, il y a eu une solidarité beaucoup plus forte exprimée avec Israël, parce qu'ils avaient peur que l'Iran les attaque. Et c'est surtout, ils se sont d'une certaine manière sentis solidaires de la cause israélienne, car victime potentielle d'une attaque iranienne. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas bon pour l'Iran, parce que ça a renforcé la hantise de l'Iran. Et au lieu de solidariser une sorte de front musulman sunnite chiite contre Israël, les Saoudiens et les autres se sont sentis plutôt proches d'Israël que proches de l'Iran, car menacés beaucoup plus par l'Iran que par Israël.
Donc Israël devrait en profiter.
Oui, alors c'est bien la difficulté. D'abord, l'Arabie saoudite est sans doute l'État qui aujourd'hui détient la clé de la situation au Moyen-Orient, ce qui peut sembler paradoxal que le pays d'Oussama Ben Laden, d'une certaine manière, soit, mais ça n'est plus celui d'Oussama Ben Laden, il a été tué, et c'est le pays de Mohammed Ben Salman qui a justement transformé en profondeur l'Arabie saoudite, en tout cas sur le plan des mœurs, etc., pas forcément des modes de gouvernance, par rapport à la phase précédente, et qui, en accumulant une richesse pétrolière extraordinaire, aujourd'hui souhaite jouer un rôle dans le devenir du Moyen-Orient. Et si État palestinien il y a, il ne pourra voir le jour que s'il est financé par l'Arabie saoudite, les Émirats et autres, mais ils ne mettront pas un centime si l'Iran et ses mandataires, je n'ose pas dire proxies, comme on dit à la télévision, où on ne sait plus parler français, mais ça, ça n'est pas d'aujourd'hui, et contrôle
ses objets, ses satellites.
Oui, c'est le terme exact, c'est mandataire. Ce sont ceux qui ont mandat pour agir. Les Houthis sont les mandataires de Téhéran.
Le Hezbollah,
le Hamas, etc. Et donc ça, c'est la grande question. Et c'est la question qui se pose, le feu d'artifice, parce qu'il n'y a eu que très peu de missiles qui sont tombés, 3 ou 5, je ne sais plus, et la seule victime aurait été une jeune bédouine israélienne qui n'avait pas trouvé l'abri où se mettre. Les missiles ont été, la plupart ont été détruits en vol, les drones aussi, mais d'une certaine façon, c'est symboliquement, c'est une prolongation du 7 octobre. Le 7 octobre est un viol du sanctuaire israélien, du sanctuaire de l'État juif, par la terre, par la razzia du Hamas, et le 13-14 avril est un viol, si j'ose dire, par le ciel, qui est une admonestation, d'une certaine manière.
Les Houthis ayant essayé de le faire par la mer.
Oui, alors eux... C'est une autre question qui s'est posée.
Je
vais y répondre parce que c'est une sorte de mea culpa. Hein. Au début, moi, je n'ai pas du tout cru que c'était le Hamas qui avait la capacité de faire ça. Qu'il n'agissait que comme mandataire de l'Iran et que donc c'était les gardiens de la Révolution qui avaient dit « Allez, on y va le 7 octobre ». Or, plus les informations se sont accumulées, autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui, peut-être qu'on sera démenti dans quelques mois, mais à ce stade aujourd'hui, il semble que c'est Yahya Sinwar, le patron du Hamas, qui a décidé du 7 octobre, voyant une opportunité extraordinaire dans le fait qu'il n'y avait plus de chars à la frontière. Netanyahou avait tellement confiance dans son schéma, ce qu'il appelle son concept, en hébreu, ça se dit conceptia, paraît-il. Je connais pas cette langue, mais ça ressemble à concept, et qu'il avait non seulement enlevé les chars, mais fourni de très nombreux permis de travail aux Palestiniens de Gaza, y compris dans les kibbutz qui seraient envahis, qui fait que ceux qui revenaient rapportaient exactement la situation sur place, c'est-à-dire que, sachant que le chef de tel kibbutz n'était pas là, les gars avaient des plans, ne sont pas allés attaquer sa maison, ils sont allés ailleurs, ils savaient où était l'électricité, le transformateur électrique, avec un degré de minutie absolument extraordinaire. Et ça, bien sûr, Netanyahou, un jour ou l'autre, s'il survit tout ça, va être obligé de le payer. Il y a des familles qui vont le demander de le payer. Mais Sinwar, en fait, a saisi cette opportunité pour maximiser l'effet de la razzia. Ce faisant, il a contraint le Hezbollah et l'Iran, qui, d'après les sources qu'on a maintenant, auraient été prévenus une demi-heure avant, pour éviter que les Israéliens ne sachent ce qui allait se passer, et du point de vue de l'effet de surprise face à la superbe israélienne, à l'arrogance des forces armées, du renseignement de ce pays, qui considéraient qu'ils étaient les maîtres du ciel, de l'Internet, etc. Ce faisant, il a, d'une certaine manière, pris en otage l'agenda politico-militaire de l'Iran et du Hezbollah, qui n'étaient pas prêts à l'offensive. Et c'est pourquoi il faut attendre le mois de novembre pour que Nasrallah fasse un discours.
Nasrallah, le chef du Hezbollah.
Qui veut dire, le nom signifie en arabe victoire divine, hein, victoire de Dieu, Nasrallah, Nasminallah. Et alors, pour l'anecdote, un certain nombre de vos confrères, journalistes, comme peu de gens maintenant connaissent l'arabe et suivent les discours en arabe, m'avaient réservé, en me disant, je veux pas que tu ailles sur cette télé, mais viens avec moi pour la radio, j'étais incapable de faire monter les enchères, sinon j'aurais fait un autre métier qu'universitaire, et pour dire si Nasrallah allait annoncer la guerre mondiale. Et Nasrallah a tourné autour du pot et a dit, bon, on envoie les Houthis. Et donc, du coup, vos confrères m'ont dit non, c'est pas la peine, tu es libre, ça n'intéresse personne. Il a rien annoncé. Donc, il avait annoncé quelque chose. Il avait annoncé que c'était pas eux. Il a fallu le croire.
Il semble même d'ailleurs que le Hamas politique, alors celui qui est installé, n'était pas non plus au courant. Non. Donc, c'est allé très loin. Donc, c'est vraiment une initiative.
Oui, et c'est intéressant.
Branche militaire.
Hein. Enfin, militaire et politique, parce que c'est Sinwar qui contrôle tout Gaza. Ismaël Haniyeh. Il avait simplement, qui est le chef du bureau politique du Hamas à Qatar, Il a au maximum le numéro de portable du coursier qui va passer les messages à l'intérieur du tunnel à Yahya Sinwar, où on pense probablement les portables ne passent pas, sinon les Israéliens les entendraient. Et donc, ça, c'est tout à fait stupéfiant, parce que c'est ainsi que, personnellement, j'interprète que l'offensive iranienne, qui est une réaction au massacre par les Israéliens, par des frappes extrêmement ciblées et précises des plus hauts responsables, les gardiens de la Révolution, qui, depuis Damas, contrôlaient le Levant. Le général Zahedi, qui a été tué le 1er avril avec ses plus importants collaborateurs dans le consulat iranien à Damas, ce qui pose d'ailleurs la capacité de la Russie à agir, puisque c'est la Russie qui contrôle en principe le ciel syrien, même si les Israéliens ont cassé pas mal de radars. Et la Russie étant empêtrée en Ukraine, tout ça est assez fascinant quand on essaye de voir en temps réel les relations internationales, puisque quand il y a eu le 7 octobre, tout le monde s'est dit c'est formidable pour les Russes, puisque les Occidentaux vont s'occuper d'Israël et donc laisser tomber l'Ukraine, au moins partiellement, et c'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé, hein, et les Russes avancer. Mais aujourd'hui, les Russes, très occupés de l'Ukraine, ne peuvent pas défendre leur allié iranien significativement, ce qui les décrédibilise dans leur capacité d'alliance et ce qui affaiblit très significativement l'Iran. À mon sens, l'Iran n'est pas dans une grande forme aujourd'hui. Le clergé a été assez marginalisé par les gardiens de la Révolution, qui n'ont pas la même capacité, je fais attention de ne pas toucher le micro cette fois-ci, à englober la société, si vous les différentes classes sociales, sont plutôt des gens issus de milieux populaires, peu éduqués, des périphéries. Donc, ils détestent les femmes urbaines qui se dévoilent, qui ont un grand plaisir à leur taper dessus, qui sont fanatiques, anti-sunnites, parce que même sont chiites et anti-kurdes. Et donc, la base du régime se rétracte, ce qui le contraint aussi à partir dans la fuite avant à l'étranger pour des raisons intérieures. Le Parlement iranien a été élu avec le plus petit pourcentage de voix qu'il y a eu depuis la République islamique. Vraiment, c'était ceux qui y croyaient très très fort qui y sont allés.
Gilles Kepel, le retourne. Je voulais quand même revenir sur une question que vous avez évoquée rapidement. D'ailleurs, vous parlez des répercussions de ce conflit sur l'équilibre des relations internationales et surtout une guerre contre l'Occident auquel Israël est associé. Alors, est-ce que vous pourriez revenir, vous avez commencé sur l'affaire de l'Afrique du Sud qui va donc à la haie, oui, pour provoquer donc une polémique mondiale en déposant une accusation de génocide à l'encontre d'Israël. Israël qui, évidemment, est la nation issue d'un génocide. Voilà. Alors, il y a une signification profonde donc à vouloir peut-être inverser les valeurs et donc à utiliser cette manœuvre juridique qui d'ailleurs n'a pas véritablement abouti, mais vous le direz peut-être, pour évidemment être un levier d'une guerre plus globale contre Israël et tous ses soutiens occidentaux. Alors peut-être expliquez-nous.
Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais on a changé le sujet dans le cours de la conversation avec vous. C'est la transformation de ce qu'étaient les fondements moraux de l'ordre international ou de l'ordre du monde. Après 1945, donc consensus sur la Shoah et l'horreur absolue. Cela étant entendu, l'Occident et le bloc soviétique se battent pour la suprématie. Et il y a ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'Alfred Sauvy appelait le tiers-monde, qui regarde passif. Avec le 7 octobre et l'action de l'Afrique du Sud, se cristallise de nouvelles oppositions. Qui oppose d'un côté les acteurs concernés appellent le Sud global, une entité tout à fait étonnante qui n'est pas tellement géographique ou climatologique, puisqu'elle inclut la Russie, qui par définition est arctique, même si on pense que les glaces arctiques vont fondre un jour, mais on n'y est pas encore arrivé, et qui regroupe l'ancien tiers-monde et ce qui reste des plus gros pays qui restent de l'ère soviétique, c'est-à-dire la Chine et la Russie. face à un homme, donc qui sont une masse démographique mondiale, puisque comme chacun sait, la démographie s'est beaucoup plus développée dans les pays dits de l'ancien tiers-monde que dans nos mondes vieillissants occidentaux. Et qui a été regroupé à l'initiative du Brésil notamment et de l'Inde dans ce qu'on appelle les BRICS. Au départ, c'était 5, Brésil, Russie, Inde, Chine et Sud-Afrique. Et les ont rejoints à partir du 1er janvier, ça veut donc les BRICS plus à 10, 5 pays qui sont localisés dans la zone de crise dont nous parlons, l'Égypte et l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran.
Alors, voit l'Iran et l'Arabie Saoudite dans le même bloc, c'est un peu assez curieux.
Hein. L'eau et le feu, et l'Inde et la Chine, c'est pas mieux parce qu'ils sont en compétition très violente. Quant à l'Éthiopie et l'Égypte, ils sont surtout connus pour leur opposition virulente sur le contrôle des eaux du Nil, du fleuve Nil. Donc, tout ça, c'est un peu complexe, mais l'idée, c'est de créer des solidarités anti-ex-occidentales contre le Nord, et de considérer surtout, de créer ce ciment qui taraude aujourd'hui jusque nos universités et nos sociétés. C'est pourquoi j'ai eu l'occasion de dire qu'à mon avis, le 7 octobre était plus important, plus signifiant que le 11 septembre. Le 11 septembre, un quotidien du soir français que je ne nommerai pas, avait titré « Nous sommes tous Américains ». Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, d'une certaine manière, et on voit comment Harvard, Sciences Po...
Sommes tous israéliens, donc à Sciences Po ou à Harvard.
Hein. Certainement pas, ouais, non, je ne parle pas de Sciences Po Bordeaux, mais Sciences Po, celui que j'ai connu autrefois à Paris, quand je vois l'amphithéâtre où j'ai enseigné pendant 15 ans, l'amphiboutmi, où globalement, ça se passait bien.
Vous avez rebaptisé Amphigaza ?
Oui, c'est ça, qui a été rebaptisé Amphigaza. Il avait été baptisé Amphi Che Guevara en 68. Je ne sais pas s'il va être rebaptisé Amphithéâtre Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y a parlé hier soir. Mais bon, ça, nous n'en savons rien. Attendons.
Avec une direction de Sciences Po très neutre dans l'affaire ?
Mais la direction de Sciences Po, il n'y en a pas pour l'instant, comme vous le savez, puisque elle a... On en est au troisième directeur qui est contraint à la démission dans des circonstances peu comparables. Et ce qui pose un problème pour l'institution, hein, bien sûr. Vous imaginez les donateurs...
Actuellement, c'est un bateau ivre, hein, on est d'accord.
Je vous laisse la responsabilité de l'homme, mais je ne m'y oppose pas. Et étant donné que j'en ai été chassé, comme de toute l'université, ça c'est bien d'être mis dehors, c'est qu'on peut acquérir une certaine liberté. J'ai toujours eu une assez grande liberté de parole, mais là particulièrement. Et donc tout ça pour dire que l'idée de toute cette affaire, c'est de recréer un autre mal absolu. Le mal absolu, c'était la Shoah. Pour les dirigeants du BRICS, les décolonialistes, les Judith Butler et autres, c'est de dire non, la Shoah, bon, c'est une vieille histoire. De toute façon, ça ne concernait que des Blancs, des Européens. Puis, avec tout le travail du négationnisme, le travail de sape qu'il y a eu depuis des dizaines d'années, on ne sait pas très bien si c'est vrai cette histoire. Vous savez bien ce que... Faurisson et tout le reste. Il y a eu des lois pour punir le négationnisme, qui ont d'ailleurs été retournées ensuite contre ceux qui voulaient les utiliser. Et finalement, le mal absolu dans l'histoire moderne, c'est la colonisation, et notamment la traite négrière et l'exploitation des colonies, etc. Et Israël... comme membre du Nord qui est venu coloniser, l'ultime à venir coloniser des pays du Sud, en l'occurrence la Palestine, et le fer de lance, c'est l'expression la plus hideuse du colonialisme.
Ce qui est évidemment une lecture hyper manichéenne de l'histoire.
Hein. Alors, on peut faire cette lecture, toutes les idéologies sont compréhensibles, on voit bien qu'elles intéressent à regroupe. Ça pose quand même un problème au début, c'est que ça fait d'abord l'impasse complètement sur la démocratie, c'est-à-dire qu'une grande partie des pays du Sud global sont dirigés par des autocraties, sont des régimes illibéraux.
On peut d'ailleurs regarder chez les BRICS, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Brésil qui est une démocratie, bon.
Oui, mais alors, vous avez des démocraties. L'Inde, en principe, est également il y a des élections, mais avec comme contrepartie une répartition de la richesse qui est d'une inégalité totale, des intouchables aux brahmanes Et
L'Inde est en train de voter d'ailleurs, mais d'ailleurs il y a des inquiétudes très fortes sur l'évolution de l'Inde.
Oui, qui est devenu un régime dans lequel le religieux hindouiste sous Modi prend une dimension quasiment sacrale, alors que c'était un pays en principe secular.
Il a lancé sa campagne en inaugurant un temple hindou sur les ruines d'une mosquée. Hein.
Voilà. Donc tout ça, on est malheureusement un peu toujours dans la même chose. Et d'autre part, ce qui est le plus paradoxal quand même, c'est que une grande partie de ces sujets des pays du Sud, qui ne sont pas véritablement citoyens dans la mesure où ce ne sont pas eux qui contrôlent, ont surtout pour objectif de s'enfuir, y compris de manière illégale, dans les pays du Nord. Et ce qui crée comme conséquence un sentiment d'angoisse et d'inquiétude dans les pays du Nord dû au différentiel démographique et autres. C'est le fameux grand remplacement utilisé par l'extrême droite qui fait que, à ma connaissance, les sondages pour les prochaines élections européennes de juin en France donnent aujourd'hui la coalition, enfin l'addition des voix Jordan Bardella plus Zemmour Marion plus deux ou trois Dupont-Aignan, etc., à 40 ou plus de 40%, ce qui est un séisme politique considérable. Et quand, de l'autre côté, donc l'orateur de Sciences Po hier soir, Jean-Luc Mélenchon, qui a pris sur sa liste Rima Hassan, une passionnariat palestinienne, donc va dans l'autre côté, ce qui polarise la société française autour de ces enjeux qui sont liés finalement à la mise en scène du Sud global, vous voyez. Donc tout cela, même si c'est idéologique, pour les raisons que je viens d'évoquer, taraude nos sociétés également. Donc c'est pourquoi il y a plus de « nous sommes tous Américains », nous sommes tous Israéliens, mais nous sommes tous Palestiniens. Ça. Donc il y a cette espèce de clivage qui travaille nos sociétés. Alors je ne sais pas vers où il va aller, mais il me semble que, ou pour revenir au début de notre propos, bon, j'ai essayé de réfléchir à chaud sur ce phénomène, mais en le situant en perspective, si vous voulez, en l'élargissant, étant entendu que, bien évidemment, je n'avais pas à ma disposition tout. Je me suis enfermé chez moi dans le Midi entre la mi-décembre et la fin janvier, et j'ai travaillé jour et nuit. J'ai laissé une partie de la vision de mon œil gauche et le... Donc, si je vous vois comme ça, ça va, mais comme ça, c'est beaucoup plus flou. Néanmoins, ce que j'ai essayé de mettre en place, en prenant beaucoup de précautions et même en revenant sur mon opinion de départ, qui était « ça n'est pas possible que ce soit si noir qu'il ait lancé tout seul ». Si, finalement, c'est ça. Et ça explique ce qui s'est passé par la suite et la faiblesse et le malaise, la réaction iranienne. Mais bon, à ce jour, rien n'a été démenti de ce que j'ai expliqué dans le livre par les faits. Ça se déroule plutôt dans la suite de ce que j'ai montré. Bon, il y aura peut-être du démenti. De toute façon, je ferai une mise à jour du livre, les éditions ultérieures ou dans les traductions. Mais il me semble que c'est un peu le rôle d'un futur ex-universitaire à partir du 1er septembre. Et donc... et de quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans sur ce domaine, de fournir au public nombreux, je vous remercie que vous êtes ce soir, des éléments cognitifs, parce que vous n'avez pas le temps d'étudier ça en détail, moi c'est mon métier, qui vous permettent après de vous faire une réflexion et d'appréhender les bouleversements du monde, non pas à travers les œillères idéologiques fourni par un certain nombre de partis politiques que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, ou d'autres, ou bien les délires divers des uns et des autres, mais d'essayer d'apprécier le plus justement possible. Alors, bien sûr, tout ça est critiquable, hein, et mes collègues ne s'en privent pas, d'ailleurs, si je lis bien certains hebdomadaires télévisuels, mais l'idée, c'est ça. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour Israël ou que je suis pour Hamas ou pour l'Iran ou pour l'Arabie Saoudite. Comme tout le monde, je vote. Mais c'est pas mon objet. Mon objet, c'est de présenter un élément analytique, et les circonstances ont voulu que je le fasse à chaud. bien, si j'avais écrit ça dans 10 ans, j'aurais eu infiniment plus de détails et ça aurait fait 2000 pages au lieu de 200.
Gilles Kepel, j'atteste que évidemment vous avez écrit ce livre donc à chaud, hein, on l'a dit, et que évidemment c'est toujours un risque. Bon, vous aurez l'occasion peut-être de le mettre à jour. Il y a pas mal de, c'est un livre dense, hein, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, donc ça laisse à tous ceux qui achèteront ce livre
l'occasion d'approfondir.
Je pense en particulier à ce que vous dites sur la scène israélienne, parce que c'est intéressant de montrer comment à l'extrémisme évident du Hamas répond aussi à un suprémacisme juif situé qui a le contexte politique israélien évidemment passionnant à décrypter,
oui, parce avec Netanyahou otage de ses zélotes, oui,
ça explique beaucoup de choses évidemment sur le comportement de Benjamin Netanyahou et qui donc est à la tête d'une majorité très compliquée
il a 64 voilà. sièges sur les 120 voilà. et si il perd les colons de Cisjordanie il n'a plus de majorité.
Voilà,
donc quand ils lui disent amène les militaires de la frontière pour faire la police en Cisjordanie où il y a eu je crois 1223 attaques de Palestiniens pour les chasser de leur terre en Cisjordanie par les colons, il est obligé de le faire, sinon il le menace de retirer leur soutien.
Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, d'antifa. Vraiment, donc nous parlons depuis une heure, donc je vais peut-être interrompre cet entretien avec regret et vous remercier Gilles Kepel donc de l'avoir mené avec moi et puis vous remercier tous d'y avoir assisté. Donc merci, donc Holocauste.